Allô, oui, bonjour, ici François du Morbihan. Voilà, merci pour vos émissions La Terre aux Carrés, C'est haut de mon amour, et pour toutes celles qui traitent des enjeux du changement climatique et de la transition. Je suis un peu étonné des spots publicitaires qui nous incitent, nous les auditeurs, à nous rendre à Dubaï par des vols Air France. Voilà. Je regrette que ces très bonnes émissions soient ponctuées de tels messages. Je pense qu'il va falloir un petit peu de cohérence. À bientôt.
Bonjour, Dame Gand. J'habite en Bretagne Sud. Samedi 10 septembre, sur une plage entre Dame Gand et Penerf, nous avons trouvé deux fous de bassin, un mort et un second qui n'arrivait pas à s'envoler. Triste spectacle. Appel de la LPO. Ils sont au courant. Ces animaux sont victimes de la grippe aviaire. Celui qui est encore vivant va mourir dans 24 à 48 heures, m'a dit le responsable de la LPO. On ne peut rien y faire. Ils ont interdiction, même eux, d'y toucher. Seule la mairie peut ramasser les cadavres, seulement la mairie est fermée jusqu'à lundi matin. Voilà, triste spectacle.
Bonjour, c'est Pierre de Peine du Tarn. Votre conversation avec Pablo Servigne, ça m'agace un peu parce que moi je suis un boomer, hein, je vais avoir 71 ans et j'ai alerté dès les années 70 de tout ce qui se préparait. Mais on me prenait pour un uluberlu à l'époque. Voilà, donc il y a quand même des gens de mon âge qui étaient alertés depuis longtemps. Et déjà, la gueule ouverte et Charlie Hebdo, dès la fin des années 60, s'en parlaient. Voilà, à bientôt, au revoir.
Elisa, à l'appareil de Montpellier, je vous appelle parce que effectivement, pour se donner de l'énergie, pour lutter pour cette écologie, il y a la revue Silence qui vient d'éditer une grande affiche sur les 50 victoires de l'écologie, parce qu'on gagne avec l'écologie, on perd pas toujours. Et le numéro du mois d'octobre sera consacré exclusivement aux victoires de l'écologie. Alors si ça, ça donne pas la pêche pour continuer à avancer et se battre pour que ceux qui nous gouvernent prennent les bonnes décisions. Voilà. Et merci pour votre émission.
Vincent à Blois. Voilà, je viens d'écouter l'émission avec Pablo Servigne. C'est très intéressant. Je note que Pablo Servigne, il utilise une voiture diesel et il prend le TGV, il a un MacBook et puis il se sent un peu coupable, mais finalement il n'a pas renoncé à ses objets ou ses services. Donc je présume que pour lui, l'action individuelle en matière d'écologie n'a pas tellement de sens. Ça ne peut être qu'une action au sens collectif. Mais par ailleurs, au sens collectif, il ne fait pas du tout le lien avec la politique. Alors que, bon, si on parle de politique, c'est évident que le capitalisme, il joue un petit rôle dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc c'était une interrogation, voilà, s'il peut rappeler pour répondre, ce serait bien. Au revoir.
Merci Vincent pour votre appel. Et si Pablo Servigne écoute l'émission aujourd'hui, eh bien on l'invite effectivement à vous répondre directement sur ce même numéro du répondeur 01 56 40 45 45. Pablo Servigne qui était donc l'invité hier de l'émission, que vous pouvez bien sûr écouter sur la page de La Terre au Carré. Elles sont composées de soie, leur forme est souvent géométrique, elles se trouvent aussi bien dans les greniers que dans la végétation. Vous pouvez parfois vous les prendre en pleine figure, elles ont une solidité stupéfiante. Elles sont indissociables de celles qui inlassablement les construisent. Je suis la toile d'araignée. Et dans la série des merveilles de la nature, eh bien les toiles d'araignée sont une vraie source d'inspiration pour les scientifiques et les ingénieurs qui tentent d'en percer tous les mystères. Mais comment justement l'araignée s'y prend-elle pour réaliser cette structure qui détient, paraît-il, le record de résistance de tous les matériaux naturels? Que peut-elle nous révéler sur justement sa composition? Que nous révèle la physique à ce sujet? Et est-ce qu'on peut s'en inspirer pour des applications humaines? Eh bien, c'est ce que nous allons voir cet après-midi avec nos invités, l'arachnologue Christine Rollard et le chercheur Sébastien Neukirch. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Christine Rollard, vous êtes enseignante-chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez écrit de nombreux ouvrages autour des araignées. Vous êtes l'autrice, entre autres, de ce livre 50 idées fausses sur les araignées aux éditions Quai. Et puis Sébastien Neukirch, vous êtes directeur de recherche au CNRS en mécanique et ingénierie des solides et des structures. Ça se trouve, paraît-il, à mi-chemin entre les mathématiques et la physique. Et vous travaillez au sein de l'Institut d'Alembert, qui est sous la tutelle de la Sorbonne Université et du CNRS. On va donc découvrir avec vous ses propriétés, caractéristiques donc des toiles d'araignées. Et vous allez répondre aux messages et aux questions qui arrivent sur le site de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter. À 14h30, notre Spider-Woman à nous, Camille Cronier. Bonjour Camille.
Bonjour tout le monde.
On passera au vert, bien sûr.
Alors, j'ai rien contre les araignées, mais moi j'aime les blaireaux. La chasse est ouverte, comme celle de la marmotte, hein, parce que oui, voilà, la chasse aux blaireaux est légale en France.
Valérie Ayestaraï réalise cette émission préparée par Joël Levert, avec aujourd'hui à la technique Alexandre Chenet.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Cet épère commence par dévider un unique brin de soie qui va s'accrocher à une feuille voisine. C'est le début d'une nouvelle toile. En moins d'une heure, cette minuscule araignée suspendue dans les airs a construit un véritable chef-d'œuvre d'architecture. Une toile orbiculaire absolument parfaite.
Petit extrait d'un documentaire de National Geographic en 2015, les toiles d'araignées, comment, de quoi sont-elles faites? Dossier de l'émission cet après-midi pour tout savoir avec Christine Rollard et Sébastien Neukirch. Christine Rollard, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc pour parler des toiles, j'ai une petite question à vous poser au sujet de l'été évidemment extrêmement chaud que nous avons vécu. Certaines personnes affirment avoir vu cette année des araignées beaucoup plus grosses que les années passées. En les associant à la chaleur, est-ce qu'il y a un lien ou alors pas du tout?
Ça n'a pas du tout, en tout cas, été vérifié et il n'y a pas d'études qui ont été faites spécialement là-dessus. Ce que j'ai pu constater, ce qu'on a pu constater entre arachnologues, c'est qu'effectivement, il y avait peut-être eu un impact de la chaleur sur les densités de population, ça c'est sûr.
C'est-à-dire plus d'araignées?
Non, moins d'araignées dans certaines zones qui étaient vraiment très très sèches. Certaines ont besoin d'humidité, de toute façon. Par contre, au niveau de la grosseur et de la taille, ça n'a pas été du tout constaté. Il faut vraiment faire des comparaisons avant d'affirmer ça.
Ouais. Est-ce qu'avec les températures qui augmentent, on pourrait voir justement apparaître des espèces d'araignées qui ne fréquentaient pas franchement notre pays jusqu'à maintenant ?
Alors, ça existe un petit peu, on a déjà, oui, c'est sûr, mais pourquoi tout de suite, venant de l'étranger?
Parce qu'on pense à des grosses araignées tropicales, par exemple.
Oui, mais venant de l'étranger, il y en a déjà qui sont arrivées, ouais. Ou des remontées qui se sont faites avec la température d'espèces plutôt méditerranéennes qui sont maintenant remontées beaucoup plus vers le nord depuis déjà une vingtaine, trentaine d'années. Et après, venant de l'extérieur et des pays étrangers, c'est pas forcément tout gros, hein, la plupart sont aussi toutes petites. Ouais. Et pour l'instant, il y a eu quelques espèces qui ont été signalés, mais qui ne sont pas forcément invasives, il faut faire très attention aux termes aussi, et qui n'interagissent pas forcément avec les autres pour l'instant sur des dynamiques de population.
Il faut rappeler le rôle peut-être essentiel quand même, hein, de ces bestioles.
Rôle essentiel de prédateur déjà, ouais. Hein, assez haut dans la chaîne alimentaire, et d'insecticide naturel incomparable. Donc ouais. Elles se nourrissent quand même beaucoup d'insectes, et en plus elles s'autorégulent en se prédatant elles-mêmes, donc ouais. On les laisse faire.
En préparant ce dossier, grâce à la documentation de Joël Levert, justement, j'ai appris quelque chose au sujet du Pakistan, paraît-il. Il y a eu une affaire justement d'insecticide naturel grâce aux araignées, mais vraiment à grande échelle. Vous pouvez nous la raconter, cette histoire?
À très grande échelle, mais en fait c'est un phénomène d'inondation ponctuelle, effectivement, au Pakistan, et dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a énormément d'araignées qui sont quand même au sol, et qui peuvent échapper à la noyade et peuvent remonter grâce à leur fil de soie, justement, dont on va pouvoir parler. Et elles se sont accaparées un petit peu toutes les hauteurs. Et donc, comme elles se déplacent régulièrement, ça fait des fils partout, et leur végétation était complètement recouverte, en fait, de fils. Et puis, qu'est-ce qui se prend dans les fils et dans les toiles? Les insectes. Les insectes qui, là-bas, effectivement, peuvent aussi provoquer des maladies.
Les moustiques, par exemple.
Les moustiques, hein, en particulier. Et donc, il y avait un prélèvement de moustiques dans les toiles qui était très important par les araignées.
Et donc, inhabituel.
Ça a permis de réguler un petit peu ça par rapport à l'humain.
Ouais.
Donc assez inhabituel par rapport effectivement à l'inondation, là, hein, mais c'est des phénomènes de recouvrement quelquefois qui sont tout à fait périodiques quand les araignées, ouais, s'envolent toutes en même temps et on retrouve
Sébastien
un peu
Kirch,
ça.
Vous connaissiez cette histoire, hein?
Oui, on a lu ça sur l'inondation de 2010. On s'attendait, avec de l'eau stagnante, à beaucoup de moustiques et donc en général de la malaria.
Ouais.
En 2010, il n'y a pas eu cette... Il y a une moins de malaria par rapport à ce à quoi on s'attendait. grâce à toutes ces toiles dans les arbres.
Donc au Pakistan, hein, c'est ouais, ça que vous parlez bien de cet épisode.
Oui, il y a déjà eu des inondations au Pakistan en 2010. Ouais. Oui.
Racontez-nous comment vous avez été amené, vous, justement, à vous intéresser, Sébastien Neukirch, aux toiles d'araignées en tant que directeur de recherche. Qu'est-ce qui vous intéresse?
Alors, on s'intéresse aux araignées parce qu'on écoute Christine à la télé, à la radio. Et puis parce qu'on s'est aperçu qu'il se passait une mécanique très intéressante dans ces toiles, dans ces fils d'araignées. Et on a voulu expliquer ce qui se passait dans la toile avec des outils de mécanique plutôt que de la chimie ou de la biologie. Une petite partie de ce qui se passe dans les toiles.
Ouais. Et donc, vous avez travaillé avec Christine Rollard, justement? C'est une sorte de collaboration aussi
en
entre
liaison,
vous?
Oui. Dès qu'il fallait avoir une néphile, on a travaillé sur des néphiles, donc qui sont des araignées tropicales. Ouais. Ce sont des grandes araignées dont la main, ça prend toute la main.
Voilà, pas
on aime
étalée,
bien.
Hein,
mais pas étalée, hein. Je ne parle pas que du céphalothorax et de l'abdomen. Mais pour l'araignée, vous êtes une branche d'arbre quand elle est sur votre bras.
Oui.
Donc, il n'y a rien à craindre.
Ouais.
Ces néphiles tissent des toiles géométriques très grandes, plus faciles à manipuler que les épères, qui tissent des plus petites toiles.
Ouais.
Et donc, quand il fallait s'occuper des néphiles, demander à Christine ce qui se passait, à quelle heure elle tissait, etc.
Ouais.
Et c'est Christine qui était là.
Elles ont des horaires pour tisser, elles font ça régulièrement, genre c'est l'heure de tisser.
Souvent, en fait, elles ont des rythmes hein, dans leur journée, et donc il y a des phases de repos et des phases d'activité. Et il y en a beaucoup qui vont particulièrement au niveau des néphiles, construire leur piège à certains moments de la journée. Donc du coup, effectivement, il faut juste voir à ce moment-là. Certaines vont tisser uniquement à la tombée du jour, d'autres à l'aube, d'autres effectivement plusieurs fois dans la journée. Donc il faut aussi un petit peu connaître la biologie.
Donc la toile, c'est un piège d'abord?
La toile, la priorité en fait de la fonction d'une toile, c'est vraiment un piège pour capturer des proies. Après, pour certaines espèces, ça n'est qu'un piège. Et pour d'autres, c'est à la fois piège et, on va dire, demeure ou voilà,
ça
donc
peut
zone
être une habitation
ou voilà, c'est ça. Ouais. C'est quelquefois relié à une loge ou à un petit repère en liaison avec le piège.
Certaines mues dans leur toile.
Exactement.
Ouais. Mais alors, Sébastien Neukirch, votre labo, il ressemble à quoi? Alors, vous êtes entouré de toiles d'araignées partout. C'est quoi? C'est Halloween tous les jours chez vous ou...
À Sorbonne Université, sur le campus Pierre et Marie Curie, non, on est dans un labo de mécanique au départ. Mécanique, c'est mécanique des fluides, acoustique et mécanique du solide. Et moi, je regarde souvent des problèmes de mécanique associés à de la biologie. On ne prend qu'une partie du labo pour ces néphiles et
donc
et
vous
les
avez
appareils.
Vous avez quand même des toiles, alors. Il en faut,
en
j'imagine.
En ce moment, on en a plus, ça va recommencer. Le Covid, on a eu des problèmes avec le Covid.
Ouais.
Mais oui, alors une néphile, ça tisse une toile qui peut être d'un mètre sur un mètre quand elle est vraiment très grande.
Oui,
quand même.
Donc ça... Ouais, c'est pas mal.
Ah ben, on fabrique des boîtes et puis on met des caméras pour regarder ce qui se passe dans la boîte.
Ah, c'est une question que je me posais justement. Le fait que l'araignée soit dans un labo, donc hors de la nature, sans les mêmes stimulations justement, oui. Elle est capable de fabriquer sa toile de la même manière?
C'est là où Christine est importante. Il faut de l'humidité. Alors là, pour cette néphile, nous, qui nous a beaucoup intéressés, c'est tropical, ça veut dire beaucoup d'humidité. Il faut qu'elle soit à la chaleur et il faut qu'il y ait un cycle de lumière qui soit le bon. Donc, et ça peut se faire dans une boîte au labo.
Mais si c'est dans une boîte, ça veut dire qu'elle n'a pas de rien à prédater, alors la boîte, elle est stérile ou vous mettez des
petits
insectes?
On lui lance des criquets. Alors, c'est pas juste.
Il y a une vache de proie en parallèle, oui. Forcément.
Il faut que la proie soit vivante. Il faut que la proie bouge. Quand la proie arrive dans la toile, il faut que ça vibre à la bonne fréquence. C'est-à-dire, si vous soufflez ou vous faites ça au doigt, ça va pas marcher, l'araignée va pas bouger. Il faut vraiment que ce soit à la bonne fréquence, la proie soit vivante. Là, elle va venir manger, la mordre.
Donc vous faites du lancer de criquet, c'est ça?
Exactement.
C'est sympa.
C'est ça.
Alors, comment ça se passe? Parce que, est-ce que toutes les araignées font des toiles, Christine Rollard?
Ah ben voilà une des idées reçues justement. Ouais. Toutes les araignées ne font pas forcément des toiles. Et déjà les toiles ne sont pas toutes de la même forme. Hein. Donc il y a différents types de toiles. On a entendu parler là justement d'une belle toile géométrique.
Ouais.
Après il y en a qui sont complètement irrégulières en tube, en réseau, en nappe, etc. Et puis certaines ne vont pas du tout chasser en utilisant un piège. Elles vont sauter, faire des petits bonds. Elles vont courir, donc la chasse à court. Elles vont faire de l'affût ou elles vont être errantes dans la végétation ou au sol.
Donc la belle toile géométrique, c'est pas toujours le cas, loin de là. Il y en a qui font, elles jettent leur fil comme ça et c'est un peu l'anarchie.
Elles jettent leur fil. Elles se déplacent avec déjà.
Ouais.
Elles ont toujours des petits fils de rappel ou de déplacement. Et puis certaines n'utilisent même pas de fil pour vraiment attraper leur proie.
Sébastien demande sur franceinter.fr comment l'araignée démarre sa toile entre deux branches très éloignées. Comment ça se passe? Qui peut me répondre? Christine Rollard? Sébastien Neukirch?
L'araignée commence par mettre un point de glu sur une branche. Ouais. Elle se laisse tomber, elle déroule ce fil de sécurité, qui est le fil principal, l'un des sept fils parfois qu'elle peut filer. Elle va traverser, qu'elle fait un mètre ou deux au sol, remonter, le remettre sur une autre branche, et elle a fait le premier fil qui va tenir la toile.
Et elle peut se faire aider du vent pour justement descendre et aller plus vite dans...
Aider du vent, c'est en général pour la dispersion.
Oui, mais il y en a quelques-unes aussi qui, entre, par exemple, deux arbres en forêt, vont utiliser un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'elles vont laisser dévider des fils en étant accrochées sur un tronc, laisser dévider des fils, et les fils vont aller s'accrocher sur un support qu'elle n'a pas forcément choisi. Et donc elle sent, en fait, dans ces cas-là, qu'il y a une résistance. Et donc là, ça lui fait aussi son premier pont, mais elle n'est pas descendue forcément. Donc les deux solutions, en fait, sont possibles.
Mais comment elle choisit, justement, son support? Elle étudie un peu le terrain, elle se dit, là, c'est bon, il y a plein de proies qui passent. Comment elle se dit, tiens, je vais me mettre sur cet arbre, et puis je vais aller mettre là-bas ma toile de l'autre côté?
L'autre fil, c'est complètement au hasard, mais elle peut ressentir, en fait, la direction du vent. Elle a une analyse, en fait, du terrain, mais elle n'a pas tous les éléments en fait du décor derrière. Puis en plus, elles ont une vision à courte distance. Donc c'est vraiment une perception au niveau des organes sensoriels, de l'humidité, de l'orientation du vent, effectivement, qui lui permettent de dire, ben voilà, je peux peut-être essayer de faire justement un piège dans ce sens-là. Bon, c'est une interprétation, là. Mais c'est un petit peu ça, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et puis là, dans ces cas-là, c'est effectivement un peu au hasard.
Vous en connaissez beaucoup, des émissions, on parle des toiles d'araignées pendant une heure. Eh bien, c'est chez nous, messieurs, dames, dans la Terre au Carré, sur France Inter. Il y a plein de questions, d'ailleurs, qui arrivent déjà sur le site de l'émission. I can't say that I'm sorry when I don't feel so wrong anymore. I can't tell you I'm trying when there's nothing left here to try for. I can't say that I'm sorry when I don't feel so wrong anymore. I can't tell you I'm trying when there's nothing left here to try for. Good Times, Angel Olsen à l'instant.
La Terre au Carré. Sur France Inter.
Je suis allé dans le nord du parc et je me suis retrouvé dans une gigantesque toile. Ça ressemblait au genre de choses qu'on voit dans les films de science-fiction. C'était incroyable. Ça allait du sol aux buissons et jusqu'en haut des arbres. Ça s'était même propagé entre les branches.
La toile géante s'étend sur une zone de plus de 5000 mètres carrés. Elle monte jusqu'à 12 mètres de hauteur sur la cime des arbres et s'enroule autour des troncs comme de la cellophane. Qui a bien pu tisser cette immense cité de soie? Donna Gard, la directrice du parc, envoie des photos à des spécialistes dans tout le Texas.
On avait entre 25 et 50 emails par jour venant d'experts qui émettaient des hypothèses, mais personne ne venait sur place.
Une toile d'araignée géante. Donc, bah oui, j'aurais bien aimé avoir la réponse à cette question, mais vous l'avez certainement, Christine Rollard.
A priori, en fait, là-bas.
C'est en 2013, au Texas.
Il y a des espèces aussi qui sont, qui vivent en communauté et qui construisent, en fait, des grands nappages de soie qui peuvent recouvrir des surfaces considérables. C'est des toutes petites araignées. C'est pas du social, à proprement parler, mais elles vivent vraiment en communauté et elles peuvent faire des tissages qui s'étendent sur des hauteurs et des largeurs.
Donc, il peut
énormes.
Y avoir une action collective.
Donc, il y a une action collective.
C'est pas juste. Une toile et l'araignée.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment quelque chose une construction en fait qui a été faite avec des centaines d'araignées derrière. Et c'est quoi, une vingtaine, 25 espèces sur plus de 50.
Pourquoi vous prenez des précautions pour dire que justement c'est pas une activité sociale parce qu'elles sont totalement asociales entre elles les araignées?
Parce que ce n'est pas en fait un peu comme des sociétés de fourmis ou de termites où il y a une certaine hiérarchisation la construction un petit peu de leur relation. Là, on a des tâtonnements des araignées qui se tolèrent les unes les autres, alors que normalement les araignées sont solitaires et elles peuvent se manger entre elles. Donc là, il y a une tolérance et avec des pontes quelquefois dans un même endroit surveillées par plusieurs femelles et une prise de proie en commun. Mais on va dire que ça ne va pas plus loin que cette vie.
Il y a beaucoup de cannibalisme quand même chez les araignées. D'où la difficulté peut-être aussi en laboratoire, non?
Oui, il faut effectivement une cage d'une araignée.
Pour produire du fil à grande échelle, oui, il faudrait élever les araignées comme on élève les vers à soie. Et là, on ne peut pas, parce qu'elles ont leur territoire. Et que si les territoires se recoupent, il y en a une qui va manger l'autre.
Alors, vous disiez tout à l'heure, pour une même araignée, on a 7 fils différents. Alors, c'est assez étonnant.
On peut avoir jusqu'à 7 fils différents.
J'aurais vous nous expliquer ça, quand même. Ouais.
Ben, donc, au bout de l'abdomen, vous avez des filières. Avec chaque filière, l'araignée va tisser un fil qui aura un but particulier. La filière qui est la plus utilisée, c'est la première filière, la filière de sécurité. C'est le fil qui se dévide lorsque l'araignée tombe d'une table.
D'accord.
Vous avez aussi, pour les araignées qui tissent des toiles géométriques, le fil spiral, qui est gainé de colle, qui va venir coller le moustique sur la toile. Vous avez le fil qui est utilisé pour faire les cocons. Il y a même deux fils qui est utilisé pour faire les cocons. Il y a le fil avec lequel elle emmaillote ses proies. Et puis pour les mâles, il y a le fil dans lequel le mâle met les spermatozoïdes. Donc oui, il faut des fils pour chaque occupation dans la vie.
Mais comment ça se fabrique dans le corps, pardon, dans l'abdomen? Il y a quoi? Il y a
C'est liquide. La soie elle-même, c'est une protéine, comme la kératine qu'on a dans les cheveux ou le collagène qu'on a dans les tendons. Donc c'est une protéine fibreuse. Il y a quelques acides aminés. Et dans l'abdomen de l'araignée, vous avez dans l'eau, ces protéines dans l'eau. Et lorsque ça sort de la filière, il y a toute une transformation physico-chimique. Ouais. Ça passe de liquide à un gel, du gel à un solide lorsque ça sort à l'extérieur. On ne comprend pas exactement tout ce qui se passe, c'est bien le problème. Ouais. Mais vous avez... Et ça se fait à température ambiante. Pas du tout comme si vous étiez un chimiste polymériste qui faisait du nylon ou du polyéthylène, des choses qui se font à 200 degrés.
C'est ça.
L'araignée fait ça à pression et à température ambiante.
Et donc, ce que vous ne savez pas, c'est comment elle maîtrise et elle décide que ça va être tel fil là, etc. Oui. Quel est le mécanisme qui fait
ça? La décision, alors, nous, ce qu'on ne sait pas faire, c'est-à-dire que si vous endormez une araignée et que très délicatement vous passez votre index sur le bas de l'abdomen, vous allez toujours sortir ce fil de sécurité, qui est le fil le plus rigide. On ne sait pas comment... Alors elle décide de filer un autre fil. La chimie sera légèrement différente. J'imagine la vitesse de sortie sera différente. Et vous allez avoir un fil qui a une chimie un peu différente, mais qui a surtout des propriétés physiques très différentes.
Mais on ne sait pas la connexion, entre guillemets, entre le moment où, on va dire, elle décide Enfin, c'est comme nous, je vais décider de prendre mon bras. Voilà, on ne sait pas.
Non, on ne sait pas, mais on voit que, justement, c'est vraiment les seuls animaux qui ont plusieurs types de fils pour différents usages. Donc, le liquide, il est contenu dans des glandes à l'intérieur du corps, et on a donc plusieurs glandes, et elle sait
elle les active,
utiliser telle ou telle glande pour telle ou telle... tel ou tel usage.
Donc ça sort par l'abdomen.
Donc ça
et
sort
non pas par
les...
la bouche.
Exactement, ni par les
pattes.
Comme Spider-Man.
C'est ça.
Et ça veut dire, les araignées, du coup, quelle que soit leur taille, parce qu'il y en a qui sont vraiment effectivement très très petites, même les mini, elles ont quand même leurs 7 fils.
Tout à fait. Ah non, pas forcément toujours 7. Hein, donc c'est ce qu'on voulait préciser aussi, c'est que selon les modes de vie des araignées, selon qu'elles font des fils ou des pièges ou pas, ça va de 3 types jusqu'à 7 types.
Donc minimum 3.
Voilà, minimum 3. Voilà.
Sébastien Nekirch, quand vous regardez justement un fil d'araignée au microscope, hein, puisque vous utilisez, j'imagine, des outils de précision, qu'est-ce que vous voyez alors? Parce qu'ils sont tellement résistants, qu'est-ce qui explique cette solidité du fil d'araignée?
Deux choses, il y a ces protéines qui sont... c'est une protéine fibreuse qui est organisée de manière architecturale, qui a une chimie donc un peu compliquée dans cette protéine, et ça vient de la sortie de la filière. Vous avez des zones dans ces protéines qui sont assez désordonnées, un peu comme les autres dans un caoutchouc, et qui vont être assez flexibles. Et vous avez d'autres zones qui sont cristallisées, des feuillets bêta, qui sont très rigides, et qui vont participer à l'extensibilité quand vous mettez de grandes forces sur le fil.
Parce qu'on parle d'un fil, mais un fil, c'est quelque chose justement qui est plutôt fragile, a priori.
Oui, alors quand on parle de fragilité, on redivise toujours par la section du fil, c'est-à-dire que c'est à section équivalente. Et quand on dit un fil, c'est-à-dire que le fil de l'araignée ne fait pas un millimètre de section, mais s'il faisait un millimètre de section, vous pourriez y accrocher 100 kg.
Oui.
Mais c'est pas le cas. Un fil d'araignée, ça fait quelques microns de section. Donc c'est en général deux fils qui sont torsadés parce que les filières sont en couple. Et ces fils-là, avec leur chimie particulière, sont capables... En fait, alors dans les propriétés mécaniques, quand on dit propriétés exceptionnelles, c'est pas toutes les propriétés qui sont exceptionnelles, c'est la résistance à la rupture, à la casse. Ouais. C'est l'énergie qu'ils vont fournir pour casser le fil.
On y reviendra tout à l'heure, parce que c'est quasiment une ficelle, Christine Rollard.
Oui, tout à fait. Donc quand on parle d'un fil, il faut s'imaginer que c'est quand même des fibrilles qui sont associées pour former une ficelle déjà.
Voilà.
Question d'Alexis sur franceinter.fr. Est-ce qu'il arrive que les araignées se volent leur toile entre elles? Hier, j'ai vu une grosse araignée du genre danseuse arriver sur une toile occupée par une plus petite. Je pense de la même espèce, dit-il. Je m'attendais à un combat ou un accouplement, mais rien de tout ça. La grosse araignée s'est installée, la petite est partie. Elle lui a squatté sa toile, c'est possible ça?
Normalement, non. Je ne l'ai jamais observé, mais effectivement, là, on est dans des périodes de reproduction. Donc, du coup, il y a mâles et femelles qui sont en train de se chercher. Et puis, effectivement, on est vraiment dans la période de reproduction des épères, c'est-à-dire des araignées qui font des belles toiles géométriques. Alors, en général, quand même, le mâle est plus petit que la femelle. C'est souvent la femelle qui reste sur sa toile, là, et le mâle qui est en train de chercher la partenaire. Donc, est-ce que c'était la même espèce? Est-ce que c'était une autre espèce? Est-ce que, effectivement, c'était éventuellement mâle et femelle? Donc,
mais en tout cas, a priori, elles ne se piquent pas leur toile.
Mais a priori, elles ne se piquent pas leur toile. Et de toute façon, s'il y en a une qui arrive sur le territoire de l'autre, il peut y avoir quand même combat ou fuite de l'un des individus.
Après, c'est des prédateurs, donc elles mangent des insectes, mais elles se mangent entre elles. Comme disait Christine, il y a une espèce d'araignée qui est spécialisée et qui va sur les toiles pour manger l'araignée qui est sur la toile.
Alors c'est sous les tropiques, c'est pas chez nous.
Il y a des super noms d'espèces, hein. L'épère concombre par exemple, la mangrove petite bouteille, la tétragnate étirée ou la zygiel des fenêtres.
C'est joli tout ça
quand
même.
J'aime beaucoup, oui. Voilà.
Oui. Ça a été difficile à trouver des noms communs, parce que beaucoup d'araignées n'ont pas de noms communs. Ouais. Et donc on utilise vraiment les noms scientifiques, mais toutes celles-ci, effectivement, vraiment, l'épère concombre, elle est toute verte. Quoi, voilà.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre la discussion autour des toiles d'araignées cet après-midi dans la Terre au Carré.
France Inter, la Terre au Carré.
14h32, on passe au vert, Camille Cronier.
Et vous savez quoi? La chasse est en train de reprendre, ouverture de la saison depuis dimanche. Ça va s'étaler suivant les départements jusqu'à la fin septembre pour se promener fusil au vent tout l'automne et tout l'hiver. Et il y a une chasse que nous sommes quasiment les derniers à pratiquer en France. Enfin nous, vous avez compris quoi. C'est la chasse aux blaireaux. Oui, les blaireaux, les vrais, pas un mec qu'on regrette d'avoir rencontré. Mélès mélès, pour leur nom scientifique, de la famille des mustélidés.
Voilà, par exemple, c'est lui en train de s'affairer autour de son terrier. Chasse inscrite dans la loi, les blaireaux sont considérés comme du gibier, même s'ils ne se mangent pas. Avec une technique dont les images font souvent parler, le déterrage, officiellement appelé vénerie sous terre. Principe simple, décrit par la Fédération des chasseurs. Chasser le blaireau dans les galeries qu'il creuse dans le sol, grâce à une meute de chiens. Mais le porte-parole de l'ASPAS, l'Association de protection des animaux sauvages, Marc Giraud, donne un peu plus de détails, lui, dans la description.
Le déterrage, c'est quelque chose d'immonde. On envoie des petits chiens dans les terriers, ils acculent les blaireaux, toute la famille, le blaireau, la blairelle, les blaireautins, tout ce qu'il y a dans le terrier. Donc, ils les mordillent comme ça. Et pendant ce temps-là, à la surface, les chasseurs entendent les cris et repèrent où sont les blaireaux. Et là, ils creusent. Des fois, ça dure 8 heures de creuser. Donc, vous imaginez la souffrance de ces animaux qui sont sensibles, intelligents, qui sont angoissés, qui sont prisonniers dans leur propre abri, quoi. Ils n'ont aucune échappatoire. Et donc, ils attrapent les animaux avec des grosses pinces métalliques géantes. Ça, il y a des photos sur Internet, c'est épouvantable. Ils les prennent par la gueule, par le cou, enfin. Puis, ils les achèvent à coups de dague, à coups de enfin, n'importe quoi, quoi. C'est très violent. C'est très violent.
Voilà, alors vous aurez compris que l'ASPAS est contre le déterrage des blaireaux et la pétition qu'elle avait lancée pour réclamer son interdiction vient de récolter plus de 100 000 signatures. Ça veut dire que le Sénat va examiner la demande.
On veut mettre ça sur le débat public et montrer ce qui se passe dans le secret de nos campagnes, parce que tout ça, personne ne le sait, quoi.
Mais vous vous doutez bien que les chasseurs ne sont pas de cet avis. Ben oui, je les ai appelés. Le président de la Fédé en Haute-Vienne, par exemple, Christian Lafarge, qui a déjà chassé le blaireau.
Alors moi, je les faisais sortir par mon chien, vous voyez, c'était un ratard. C'est lui qui faisait pince, qui allait les chercher, qui les sortait. Alors, vous voyez.
Ah oui, ben on voit bien, oui. Et que dit-il alors de la cruauté dénoncée par l'ASPAS ?
Jamais je me suis posé la question par rapport à ça. Depuis la nuit des temps, ça s'est fait comme ça, il n'y a pas d'autre méthode. Non, je ne vois pas la méthode, ce qu'on peut appeler cruel, sinon il faut arrêter de manger le poulet le dimanche, parce que le poulet, quand on le mange, effectivement, on ne pense pas qu'il a été vivant un moment et pour qu'il passe au stade rôti, il a fallu le tuer.
Ah ben voilà, on arrive aux arguments imparables des chasseurs. Il y a aussi, vous le savez, les dégâts sur les cultures. Alors les blaireaux ne disent pas non à quelques raisins dans les vignes ou du maïs, même si je précise que leur plat favori, c'est quand même les vers de terre. Et voici l'un des arguments best-seller des chasseurs avec le président de la Fédération du Lot, cette fois, Michel Bouscary.
C'est les traditions. Je veux dire que derrière, il y a une culture, il y a une façon de vivre, il y a des traditions, il y a un enracinement.
Les traditions que lui ne pratique pas, cela dit, je le précise. Oui, nous, Français, déterrons les blaireaux, ok, les touristes. Même le désormais roi Charles III avait fait interdire la pratique en Angleterre, c'est vous dire. Les blaireaux sont aussi protégés en Espagne, en Italie ou encore en Belgique. Marc Giraud et l'ASPAS veulent leur rendre leur lettre de noblesse.
Le blaireau, c'est totalement inconnu. Les gens ne savent pas ce que c'est. On a fait des manifs à Paris, il y avait des membres de banlieue qui disaient « Oh, c'est quoi cet animal ? Oh, chasser ça, ça se fait pas. » Enfin. Bon, ils savaient même pas ce que c'était. On se traite de blaireau, donc ça fait rire tout le monde. Mais on sait pas, ce bel animal noir et blanc, c'est un peu notre panda, le blaireau. C'est vraiment un bel animal. C'est un des fleurons de notre biodiversité.
Ah, il y va, hein. Et une campagne « J'aime les blaireaux » avait même été lancée l'an dernier par l'ASPAS pour ces ingénieurs architectes souterrains capables de creuser des terriers immenses dans lesquels se succèdent les générations hein, tous les 5 ans. Et les inviter, parce que le blaireau est accueillant, il partage avec les lapins et les renards. Par contre, sachez qu'il y voit mais absolument rien. Ce sont ses moustaches et son odorat 800 fois plus développés que le nôtre qui lui permettent de détecter les obstacles, sauf les voitures. Il y a encore des progrès à faire quand on garde les bords des routes. Et écoutez comment en parle le Muséum National d'Histoire Naturelle dans une vidéo.
Il est un symbole de sagesse, de noblesse et de courage. Ce que les coureurs du Tour de France ont bien compris en surnommant Bernard Hinault le blaireau.
Voilà, Bernard Hinault le blaireau. Bonne vrai. Saison de chasse donc à tous les blaireaux surtout, et courage aux autres.
Et c'était Camille Passauvert à réécouter sur franceinter.fr.
Et je précise qu'il y a une autre chasse qui fait polémique, hein, c'est la chasse à la marmotte, j'avais fait une chronique là-dessus l'année c'est dernière. Vrai. Christine Rollard, je vous ai vu beaucoup réagir au déterrage de blaireaux, non ?
Ben, c'est vrai que
tradition française.
Tradition française, mais j'ai signé la pétition. Alors donc du coup, effectivement, je suis un peu plus dans le sens de ce que défend Marc Giraud, bien évidemment. Et je trouve que c'est assez ignoble hein, de voir comment c'est traité.
Mais cet argument de la tradition, franchement.
Ben oui, on va peut-être pas faire toute polémique là-dessus, mais si on peut, on néanmoins, effectivement, pour moi, à chaque fois qu'on évoque cet argumentaire de tradition, je trouve qu'il faut quand même savoir évoluer aussi par rapport au monde dans lequel on vit et comment il évolue justement et comment on le fait évoluer.
Allez, tradition toile d'araignée cet après-midi dans la Terre au carré.
Je traverse une ville, la nuit est facile, je connais ses heures. Depuis longtemps, les soirs de concert, les visages, les verres, le couloir d'hôtel, en y pensant. C'était quoi ce plan? Rêve adolescent, le piano, la scène, une vie comme ça. C'est quoi cette histoire? Salle dans le noir, quatrième rappel, servir à quoi? Attraper les heures et faire l'attrape-cœur. L'attrape-cœur, attraper les nuits, les amours en fuite. Les lèvres embrassées, les cages d'escalier, je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas. Le soir qui descend, ce genre de frôlement, la pelouse en juin, ça c'est pour moi. J'aime te faire sourire, pourtant à choisir. La filière, port bail, bac plus 3, bilan compétences, moyen pour la danse, pour les sentiments, ça ira. Attraper les heures et faire l'attrape-cœur. Je traverse une ville, la nuit est facile. Depuis longtemps, je connais ses heures. Les soirs de concert, la chambre en hiver. Je relis l'attrape-cœur.
L'attrape-cœur, vous avez reconnu la voix de Vincent Delerme.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier. Sur France Inter.
Alors ce que vous entendez là, c'est une création basée sur les vibrations de toile d'araignée, retranscrite donc en musique grâce à des scientifiques qui ont travaillé en collaboration avec l'artiste argentin Thomas Saraceno, qui a présenté une exposition extraordinaire il y a quelques années à Paris. Un travail qui permet de comprendre l'architecture tridimensionnelle des toiles d'araignée. C'est pas faire que de la musique, c'est aussi en comprendre aussi le mécanisme avec le langage vibratoire donc de ces animaux, Christine Rollard.
Oui, tout à fait, j'avais vu ça en fait, et c'est assez spectaculaire. Après, je me demande ce qu'ils vont pouvoir faire de ça et comment on va pouvoir interpréter tout ça, hein. Mais ça faisait effectivement un son particulier. Et Thomas Saraceno avait déjà présenté justement dans l'exposition des vibrations à partir de toiles, certaines de Néphil justement, qui font des grandes toiles géométriques.
Sébastien Nequillage, puisque nous avons ouvert ce dossier toile d'araignée avec vous depuis 14h, j'aimerais savoir en cas de perturbation, c'est-à-dire par exemple en cas de gros vent ou de pluie forte, comment réagit la toile alors exactement ?
Alors la toile se met à vibrer et effectivement ce qui est important c'est qu'elle soit quand même tendue, sous tension, parce que donc dans cette toile géométrique vous avez les fils radio qui sont comme les rayons d'une bicyclette sur lesquels l'araignée se déplace et vous avez ce fil spirale qui est le fil de capture, qui est comme une spirale qui part du moyeu et qui va vers le pneu si vous voulez, si c'était une roue de bicyclette. Et c'est ce fil de capture qui est décoré de gouttelettes de glu, c'est ce fil de capture qui vient coller l'insecte. Alors il faut que la section efficace de capture soit la meilleure, que les fils soient bien répartis. Quand il y a du vent, tout ça, ça vibre. Il faut pas que ça vibre trop, parce que si vous commencez à avoir deux fils de capture qui viennent se choquer, étant donné qu'ils sont remplis de gouttes de glu, ils vont rester l'un avec l'autre et vous avez créé un trou dans la toile qui a une moins bonne section efficace et qui va moins bien capturer les insectes.
Et s'il y a une rupture d'un des fils, alors?
Alors, s'il y a une rupture d'un des fils, il y a deux choses. L'architecture de la toile elle-même et les propriétés d'extensibilité des fils font qu'en général, la rupture reste localisée. Ça s'est vu en faisant des expériences avec les Américains qui ont fait des expériences, qui sont venus tirer très fort sur des fils et qui ont vu que même, s'ils finissaient par rompre un fil, cette rupture restait localisée. Ça, c'est très, très important en science des matériaux, parce qu'en général, quand une pièce de bois, une pièce de métal casse, souvent la fissure se propage à partir d'un premier défaut. Et là, la toile, par la géométrie et aussi par la courbe de force-extension qui est spéciale pour la soie d'araignée, a réussi à ce que ça n'arrive pas dans les toiles.
Vous, dans vos recherches, vous faites ça vraiment sur la toile physique ou vous servez quand même énormément de modélisation, j'imagine de recréation en 3D, etc.
On a fait deux choses. Nous, ce qu'on voulait ce qu'on voulait comprendre, c'est ce qui se passait dans ces gouttelettes de glu dans le fil de capture. Parce que un collègue, Fritz Wollras de l'université d'Oxford, avait dit que les fils pouvaient s'enrouler dans des fils de capture pour former un treuil. Le fil est attiré par la glu qu'il y a dans le fil de capture, va venir se bobiner dans le fil, et ça va permettre d'avoir quelque chose de plus extensible. On a voulu vérifier cette hypothèse. La première chose qu'on a faite, c'est effectivement d'extraire un fil de la toile d'araignée, de faire des manipulations d'extension sur le fil et de regarder dans la goutte si on voyait ce treuil apparaître. On en est venu à utiliser des épères à l'anéphile parce qu'on voyait mieux le fil. On a vu ce treuil apparaître. Et après, toute la question, c'était évidemment à quoi sert ce treuil ? Apparemment à dissiper l'énergie cinétique du moustique incident, à dissiper son énergie pour l'arrêter. Et puis on s'est demandé si le treuil ne pouvait avoir lieu que dans les toiles d'araignée, il y a une chimie particulière dans cette goutte de glu, etc. Ou si est-ce que c'était un problème de chimie ou juste un problème de mécanique des fluides et d'élasticité des solides.
Ouais.
Donc on a reproduit le phénomène avec du fil synthétique et de l'huile silicone. Et alors, le secret, c'est que ça marche. Alors, ça marche. Là, je vous parle du travail d'un an d'un doctorant, Hervé Létro, qui a passé un an et que ça ne marchait pas. Au bout d'un an, on comprend que le secret, c'est le diamètre du fil. Le fil, pour se bobiner dans la goutte, alors il y a une énergie chimique qui l'attire dans la goutte, mais quand vous bobinez le fil, vous le courbez, et ça, c'est une énergie élastique. Et il y a un interplay entre ces deux choses-là. Et il faut que le fil soit assez fin, moins de 10 microns, pour que le phénomène marche.
Mais Christine Rollard, les ingrédients qui permettent dans l'abdomen de l'araignée de fabriquer justement ce fil de soie, ça lui permet d'en fabriquer combien ? Est-ce qu'il y a un moment où la source peut se tarir ?
Il y a un moment où la source peut se tarir, effectivement. Et dans les premiers élevages d'aranéiculture, on va dire, qui ont été faits en 1896 à Madagascar, quand même. Donc, où ils ont élevé beaucoup, beaucoup de néphiles pour justement extraire des abdomens la soie. Ils avaient fait l'expérience sur une araignée, un individu qu'ils n'avaient pas nourri pendant un moment, en tirant le fil, jusqu'à ce qu'effectivement, il n'y ait plus de fil.
Et
donc, c'était plus de 1000 mètres de fil, quand même, d'un même individu.
Ouais, c'est dingue, dans ce petit animal.
Oui, complètement. Bon, les néphiles font quand même au niveau de la taille autour de 3 à 4 cm à peu près de taille de corps. Donc c'est quand même des bonnes tisseuses déjà, puisqu'elles font des toiles de plus d'un mètre de diamètre. Donc voilà, à un moment ça s'épuise.
Un kilomètre de fil.
C'était quand même pas mal. Et là, il faut bien évidemment ensuite, puisqu'il y a beaucoup d'eau aussi, il faut qu'elles remangent bien évidemment au fur et à mesure. Et
pour reconstituer ses réserves.
Voilà.
Patrice nous écrit sur franceinter.fr, les tégénaires produisent des toiles comme une sorte de drap, comment s'y prennent-elles ? C'est quoi des toiles comme une sorte de drap ?
C'est des toiles en nappe, un petit peu. Ouais. C'est comme une petite nappe sur laquelle qui est assez solide.
Oui, voilà, hein. Okay.
Et ces toiles de Tegener sont reliées, la nappe est reliée à une sorte d'entonnoir dans laquelle elle se tient pendant la journée où elle est au repos. Et c'est à la nuit tombée qu'on voit effectivement les Tegener se mettre pattes étalées sur cette nappe pour sentir les vibrations des proies et se précipiter ensuite dessus. Donc c'est vraiment un type de toile, hein. C'est les toiles en nappe. Hein. Donc on a des toiles en nappe avec entonnoir et d'autres sans entonnoir.
Donc là, elles utilisent combien de fils, hein?
Alors c'est un fil qu'elles vont utiliser, et c'est le fil le plus commun dont on parlait tout à l'heure. Mais là, elles vont passer, repasser, repasser, et ça fait vraiment cet enchevêtrement qui est assez costaud, et dans lesquels se prennent les pattes des insectes qui tombent dedans.
Du coup, il n'y a pas la glu dans cette...
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout.
C'est très particulier. La glu, c'est le fil spiral des toiles géométriques.
Exactement.
Il y a d'autres araignées qui utilisent de la glu pour capturer. Mais la glu dont je parlais, est juste dans la spirale. Et l'araignée ne met pas les pattes sur cette glu, elle met les pattes sur les autres fils.
C'est vraiment le centre de la toile, quoi.
C'est la spirale
autour. Le pneu de la voile.
Exactement.
Sébastien Lukirch, c'est quand même dingue d'imaginer dans ce petit cerveau le fait de pouvoir fabriquer des structures aussi sophistiquées. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui nous dépasse, quoi.
Avec ses
formes extraordinaires.
Ça a démarré il y a 400 millions d'années. Peut-être qu'à cette époque-là, il y avait juste une seule filière. Maintenant, il y a des araignées qui sont très spécialisées. Oui.
Justement, David voudrait savoir comment on peut expliquer cette évolution. Est-ce que la volonté de l'animal pourrait être prise en compte dans le processus d'évolution des araignées?
Bon, ça c'est très général. Non, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il y a une première toile qui a fait un deuxième type de fil ou un autre type de fil qui lui a donné un avantage. Et cette araignée a mieux survécu.
C'est complètement la sélection naturelle. Et puis c'est effectivement autour de 300 millions d'années, en fait, maintenant, qu'on a vu apparaître les premières araignées, et on a aperçu justement sur ces traces fossiles des sortes de filières. Donc apparemment, elles avaient vraiment cette capacité de produire des fils, et on a retrouvé des fils dans l'ambre de la Baltique, donc 120 millions d'années. Donc il y avait bien des fils de soie, et elles produisaient ces fils de soie.
Et alors j'ai lu que les araignées pouvaient fabriquer leur toile aussi sur le plancher océanique, enfin en tout cas dans des endroits aquatiques, c'est vrai ça, Christine Rollin, ou pas?
Ça dépend quel type de toile, encore une fois. On n'est pas sur des toiles géométriques dans ces cas-là.
Oui,
on est sur des petites toiles en nappe.
Mais dans l'eau, c'est possible aussi.
Alors c'est dans l'eau, c'est possible, puisqu'il y a une espèce qui est aquatique. D'accord. Au monde, l'argyronette aquatique, et qui fait, donc dans la végétation basse de petites mares, une sorte de petite cloche, donc avec de la soie, effectivement, sous l'eau, entre la végétation, et ensuite elle va récupérer de l'air avec son abdomen, donc elle capte le CO2, et puis elle va ensuite pousser cette bulle d'air dans la végétation.
Mais c'est pas le plancher océanique, alors, hein,
non,
on est quand même...
Enfin bon, non, on est dans...
À votre connaissance, voilà.
Très bien. Sébastien Lukirch, comment, évidemment qu'il y a la connaissance, et vous qui êtes ingénieur, spécialiste de la mécanique, des structures, etc., c'est évidemment important pour vous de comprendre tout ça, mais comment on en vient à étudier les toiles d'araignée, et quelles interprétations ou récupérations il peut y avoir à partir de tous vos travaux?
C'est un intérêt pour la biologie. Il y a plus longtemps, je regardais les plantes grimpantes, la mécanique des plantes grimpantes, comment elles s'accrochent à leur tuteur. J'ai aussi regardé des problèmes de mécanique de l'ADN ou de protéines fibreuses.
Mais est-ce qu'il peut y avoir des formes de récupération ou d'application enfin, je fais un peu d'anthropocentrisme là, mais...
Oui, il peut. Mais de toute façon, la soie d'araignée a quand même été souvent utilisée pour différentes choses. Et c'est toujours utilisé pour les fils de suture en chirurgie, par exemple. Vous pouvez même acheter des fils de suture sur Internet en soie d'araignée. Ce qui est important là pour la... Les fils de suture sont souvent en soie, ça c'est du verre à soie. Quand vraiment il faut que le fil soit très fin, fasse la cicatrice la plus...
C'est
du fil d'araignée.
Mais il y a d'autres applications, parce que souvent on voit des articles sortir en disant voilà, on peut faire des choses extraordinaires avec la toile d'araignée, et puis bon, on les voit pas venir vraiment. Hein.
Il y a beaucoup de promesses.
Hein, c'est
il
ça.
Il y a beaucoup
hein.
de promesses, oui. Parce qu'on part de quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. Donc c'est quelque chose sur l'énergie à la rupture dont on parlait. La soie d'araignée, le fil principal, a une résistance à la rupture qui est plus grande que du Kevlar ou que de la fibre de carbone. Donc il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ouais.
Allez, on revient vers vous avec d'autres questions pour terminer ce dossier toile d'araignée dans un instant. Après, Alain Bachung. Bon après-midi sur France Inter. Osez Joséphine.
À l'arrière des berlines, en devine. miroir ne cédera à qui sourit la vie. Marchez sur l'eau, évitez les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez le sourire, usez l'usurier, soyez ma muse. Que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, 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 osez. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Alain Bachung sur France Inter. Christine Rollard, Sébastien Neukirch sont nos invités pour parler toile d'araignée cet après-midi. Christine Rollard, est-ce que les araignées refont leurs toiles tous les matins, par exemple?
Pour celles qui font des toiles géométriques, quand vraiment la toile est très abîmée par les impacts des proies, ça fait quand même des trous et c'est plus aussi efficace au niveau de la prise de proies. Donc dans ces cas-là, elles peuvent remanger leur toile.
Manger leur propre toile.
Oui, oui, elles réabsorbent en fait les protéines et donc les fils de soie, et elles peuvent resynthétiser après de nouveau les protéines.
Et ça lui sert aussi à boire.
Exactement, ça fait une petite gouttelette.
Exactement. Ouais. Mais il ne faut pas perdre ses protéines, hein. C'est la source. Pour refaire du fil, il faut ou des proies ou manger la toile.
Chantal nous demande, enfin nous écrit pour nous dire qu'elle vit seule, elle ne détruit pas les araignées ni leur toile. J'aime les observer, les voir tisser leur toile, attraper leur proie, etc. Je les regarde aussi se battre et je filme tous ces moments extraordinaires au grand dam de mes amis. Je dois déménager, je ne peux pas imposer aux futurs propriétaires de conserver mes protégés. Que dois-je faire? Est-ce que je dois les libérer? Que doit faire Chantal, Christine Rollard?
Elle a peut-être des vidéos pour vous d'ailleurs, Chantal.
Ça n'est pas évident, effectivement, parce qu'il faudrait pouvoir faire accepter en fait aux futurs propriétaires. Mais je crois que là, oui, voilà.
Donc il faudrait qu'elle les mette dehors, non? Parce qu'elles vont re-rentrer ou...
Ah ben elles vont re-rentrer, mais elles vont rechercher en fait un endroit abrité, parce que celles qui sont dans nos maisons ont un mode de vie qui leur... Voilà, qui les oblige à rechercher un endroit abrité. Elle peut peut-être les mettre toutes dans un endroit particulier, mais en même temps, les araignées qui sont dans nos maisons ne vivent pas très longtemps. Hein. C'est des durées de vie d'un an, deux ans grand maximum, ou trois. Et il va y avoir une perte qui va se faire au fur et à mesure. Elle peut déjà, discrètement, enlever au moins tous les fils qui sont poussiéreux. Donc ça, bien évidemment, c'est pas très, très esthétique. Mais laisser les araignées, et de toute façon, elles sont dans des petits coins et elles seront peut-être pas très visibles au départ.
Justement, à ce sujet-là, on imagine les araignées des greniers ou des caves avec plein de poussière autour. Mmh. Elles sont un peu cracra, les araignées, ou elles aiment bien la poussière, ou au contraire?
Non, pas forcément, mais les toiles prennent beaucoup la poussière. Effectivement, les fils de déplacement prennent beaucoup la poussière. Donc ça, on peut les enlever. Mais l'araignée elle-même est très propre. C'est une idée fausse de dire que les araignées sont sales. C'est les toiles qui font sale. L'araignée est toujours en train de se nettoyer, de faire des toilettes de chat, parce qu'elle a des organes sensoriels qui doivent être opérationnels.
Mais vous dites, on peut les enlever, si c'est poussiéreux, c'est avec le coup de balai, là. Alors les gens vont se dire, est-ce qu'il faut que j'enlève les toiles d'araignée avec un grand coup de balai ou pas? Il faut choisir, il faut regarder attentivement comment on fait.
Beaucoup d'araignées, hein, quand on voit des fils comme ça, c'est vraiment qu'elle n'est plus là. Et quand on voit des toiles très très sales, l'araignée n'est plus présente.
Mais dans le doute, vaut mieux laisser les toiles à la maison.
Ah ben, il vaut mieux laisser les toiles, surtout quand elles sont pas poussiéreuses. Donc, ça veut dire qu'il y a une propriétaire.
Quand c'est très sale, c'est qu'elle est morte ou qu'elle est partie.
Exactement, qu'elle est partie, qu'elle a changé de place.
Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. On aurait pu faire deux émissions, trois. On a eu plein de questions pour vous encore.
Il y en a encore plein. Il n'y a plus qu'à, alors nous réinviter.
On vous renvoie sur 50 idées fausses sur les araignées aux éditions Quay que vous avez signé Christine Rollard. Merci beaucoup Sébastien Dekirch pour vos éclairages également. À bientôt.